Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir et bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM. Alors Money Time aujourd'hui, saison 4, épisode 15 avec autour de la table nos chroniqueurs et on va commencer par la droite avec Charles. Salut mon Charles, comment ça va bien ?
Salut Matt, salut à tous.
Ça va très bien et à côté de toi c'est Jean-Marc. Salut mon pote.
Salut mon pote, Charles, bonsoir à tous.
Bon, alors, on revient sur un format normal avec nos rubriques. Et dans nos rubriques, cette semaine, on va parler de football. On revient rapidement sur la Coupe de France, les affiches étrangères. Et on se projette sur la Ligue des Champions qui reprend demain dans la foulée. Une page sport d'hiver dans Snowpark avec forcément du biathlon et du ski alpin, les Coupes du Monde respectives de ces disciplines. Et puis Jean-Marc, on va parler des résultats de nos clubs nantais. Ben, en tous les cas, pour ceux qui étaient sur le pont. Et dans Multizone, tout le reste de l'actu, un petit mot de top 14, de cyclisme bien sûr, avec les Strade Bianche qui nous intéressent. On parlera aussi peut-être des tours à étapes qui ont débuté ou qui vont débuter cette semaine. Et puis un mot de golf, hein, c'était l'Arnold Palmer Invitation. Alors voilà, on est parti. On est parti sur le football, mes chroniqueurs, c'est le Prune Football Club.
Le Prune Football Club, FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et cette semaine, pas de Ligue 1 Uber Eats, puisque c'est la Coupe de France. Alors pas de Nantais, puisque nos Nantais ont déjà été éliminés hein, au dernier tour face au RC Lens. Mais bah, le reste du plateau était sur le pont.
Voilà, et je vais commencer par les départementaux du coin, les dernières en liste, puisqu'il en reste une équipe. Les Voltigeurs de Châteaubriant, l'autre équipe de la ville, celle qui a été créée en 1907, et dont la section football vient de fêter ses 100 ans. Eh ben, cette équipe, elle a réalisé le petit exploit d'éliminer une équipe, le SO Romorantin à l'extérieur. C'est la cinquième fois de suite qu'ils éliminent une équipe à l'extérieur. Ils avaient commencé par Caen, Gonfreville, Le Mans et les Herbiers. Tout ça à l'extérieur. Et là, ils l'ont emporté 3 buts à 1 grâce à leur capitaine David Vernet, auteur d'un triplé. C'est une très très belle performance pour cette équipe qu'on retrouvera en huitième de finale. C'est une première pour eux, c'était déjà une première pour les 16e.
On a leur adversaire ou pas ?
Non.
Non, c'est ce soir les tirages au sort.
Ce soir. Non, pour l'instant, on n'a donc aucun adversaire. Donc, ce n'est pas la plus petite équipe. La plus petite équipe vient de National 3. Elle les voisine puisque c'est l'équipe de l'Olympique Saumur.
Qui a éliminé l'US Montagnard.
La Montagnard, l'équipe de Inzinzac Locrist dans le Morbihan. Avec un scénario particulier, puisque 3-3, et puis finalement, ils vont l'emporter au pénalty alors qu'ils menaient 3-1. Voilà, et bah, du coup, j'en profite pour rebondir, puisque en huitième de finale, on aura la bagatelle de 5 clubs de National 2, 1 club de National 3, 2 équipes de National, 1 équipe de Ligue 2 et 7 équipes de Ligue 1.
Bah ouais, bah on va faire le tour de ceux qui sont tombés ce week-end, Charles, en Ligue 1.
Bah, les clubs de Ligue 1, on va commencer par la grosse surprise. Vas-y. Un peu. Hein. C'est l'élimination de l'Olympique de Marseille à Canet-en-Roussillon.
Alors, enfin, c'est très exactement au stade Gilbert Brutus de Perpignan, qui est le stade des Dragons catalans. Mais du coup, donc c'est pour préciser que Canet-en-Roussillon ne jouait pas à domicile, mais n'était pas plus avantagé par rapport à Marseille.
Oui, mais de toute façon, avec les matchs à huis clos, hein, ça change pas grand-chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de clubs, des petits clubs qui se plaignent en soi, qui ne se plaignent pas, mais ont moins envie, ouais, qui ont moins envie du coup, ouais, de jouer contre des
clubs
de Ligue 1.
Ils se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas faire d'argent, puisqu'ils ne peuvent pas faire de spectateurs. Ils se plaignent et ils ont raison parce qu'ils ont joué que les matchs de Coupe de France depuis le mois d'octobre, c'est-à-dire ils sont à peu près à 12 matchs sur la saison depuis le début de l'année, mais en gros, ça fait 4 matchs.
Okay, 5 matchs,
donc c'est vraiment très peu. Et on a appris que la nationale 2, le championnat était arrêté, donc jusqu'au 7 avril prochain, puisque ça sera la date de la prochaine journée de Coupe de France, des huitièmes, eh ben ils joueront pas.
Ouais, bah c'est une saison incroyable. Enfin, on comprend pas grand chose. On fait jouer la Coupe de France, mais bon, les clubs amateurs peuvent quasiment pas s'entraîner, jouent quasiment jamais. Enfin. En plus avec ce nouveau format où finalement ça se joue entre clubs de Ligue 1, Ligue 2, puis des clubs de division supérieure.
C'était jusqu'à au tour précédent, donc les clubs amateurs plus le national, puisqu'il est géré par la Fédération Française de Football, donc qui jouaient sur le coup ensemble, et entre Ligue 1 et Ligue 2, ça jouait de leur côté. Maintenant, on rassemblait le tout pour ce tour-là. Eh ben moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre d'équipes de National 2 et 3 qui sont encore là, quoi.
Ouais,
sont des divisions non professionnelles. Je parlais de Châteaubriant. Un seul contrat fédéral pour Châteaubriant. Tous les autres joueurs sont amateurs.
Non, ben voilà. Pour eux, je pense que ça doit être un réel plaisir de pouvoir se qualifier comme ça. Après, bon, les conditions, on les connaît. C'est compliqué.
C'est le truc un peu dommage.
Mais c'est aussi bien pour ces clubs-là qui ont plus de visibilité. Je pense sur cette Coupe de France parce que effectivement, ils affrontent des clubs de à peu près leur standing, on va dire ça comme ça, et donc forcément, ils ont plus de chances d'aller plus loin, et donc ça leur fait une.
Et puis aussi, en parlant argent, ils ramasseront l'enveloppe qui est due à chaque vainqueur de tour. Mmh. Chaque fois que tu passes un tour, tu prends un peu de monnaie. Et ben, ça va payer les frais, les joueurs
toujours
aussi, les primes des joueurs. Donc c'est important. Mais moi, je voulais saluer vraiment l'exploit de ces équipes qui jouent pas et qui gagnent.
Mais oui, surtout contre des gros clubs de Ligue 1,
Alors, on l'a dit, Marseille qui coule au Canet en Roussillon, qu'on connaît surtout pour son cercle de nageurs.
C'est pas forcément plus
pas vraiment pour son
chose.
Équipe de foot. Lens est tombé aussi.
Au Red Star.
Alors, le Red Star, c'est un petit peu l'équipe un petit peu bâtard de l'histoire, parce que c'est des professionnels, ils jouent en national. Toute l'équipe est professionnelle, ils jouent eux. Contrairement, parce que c'est ça que je n'ai peut-être pas précisé, mais le championnat national, lui, n'est pas arrêté. Donc, il joue toutes les semaines, ce qui n'est pas le cas du coup de la Nationale 2 et de la Nationale 3, et accessoirement des équipes régionales comme le club franciscain qui a été éliminé par Angers. Mais du coup, voilà, et ça change pas mal les choses. Donc, le Red Star, belle perf, hein. Il avait déjà fait il y a une vingtaine d'années, je crois.
Ouais, bah ça va être de toute façon, en plus avec le nombre de clubs assez petits de leur standing qui sont là, ils peuvent espérer aller un peu plus loin que pourquoi pas des quarts de finale et tout.
Oui, sur le tirage.
Surtout les clubs de Ligue 1 s'affrontent entre eux.
Oui. Et aussi. Comme ça a été le cas pour Paris qui a éliminé Brest.
Et pour ce soir, il y a Monaco.
Et Monaco
Rennes.
Qui joue Nice. Derby de la Côte d'Azur,
effectivement. Et aussi l'autre belle surprise, c'est le Puy qui élimine Lorient.
Exactement, j'allais te le dire.
1-0, les Merlus terminaient la Coupe de France pour cette année.
Beaucoup de réussite pour le Puy sur le match. Lorient a largement dominé ce match. Après, d'un autre côté, pour Lorient, c'est peut-être pas plus mal d'avoir que le championnat pour être sûr d'essayer de se sauver, comme nous l'indique ton joli masque. Je salue. Et pour Lorient, ça sera objectif absolu sur le championnat. C'est peut-être pas un mal.
Bon, je pense que de toute façon, c'est une équipe qui joue plutôt bien en Ligue 1. Qui a vraiment de l'envie et ça se voit. Donc, je pense que Lorient, cette année, a des chances de sauver par rapport à d'autres équipes où on voit que c'est plus difficile.
Surtout si tu regardes les adversaires, puisque Nantes est déjà éliminé, Dijon, je crois aussi, Nîmes aussi. Donc, quelque part, pour ceux qui font la course au maintien, autant être tous éliminés, comme ça, ils sont armes égales, ils jouent que la survie en championnat.
Voilà. Maintenant, il reste que surtout les grosses équipes de Ligue 1 avec Paris qui s'est qualifié à Brest. Alors, un très beau match pour l'avoir regardé. Il y a vraiment eu. Brest a fait un excellent match. Ils n'ont pas eu de chance. Hein. Ils se sont fait avoir sur une première erreur défensive, une mauvaise relance.
Deux grosses erreurs défensives qui donnent les buts aux Parisiens qui n'avaient pas vraiment été dangereux sur le début de période. Brest s'est bien battu, mais face à la...
L'armada parisienne, ça paye cash.
C'est compliqué, ouais. Mmh.
La belle victoire aussi de Lyon face à Sochaux, 5-2. Alors, est-ce que le résultat reflète l'entièreté du match? Plus ou moins, parce que quand
pas
même...
Pas sûr, Lyon, Sochaux revient deux fois au score, ils ont eu beaucoup d'occasions. Après, parce que Sochaux, c'est une équipe qui joue beaucoup en Ligue 2, ils sont à peu près 6e, je crois.
Ils ont des bons joueurs, ils ont des bons joueurs, on l'a senti, Chris Bedia qui met un doublé.
Très beau joueur.
Il y a aussi le jeune Virginius qui est entré en deuxième période. Sochaux a bien résisté, mais bon, après, face à Lyon, on les connaît, ils jouent le titre, donc forcément, c'est plus compliqué.
Lille, belle victoire à Mezzavia en Corse sur le terrain du Gazélec.
Ouais, c'était pas évident, on connaît, c'est les clubs corses.
D'ailleurs, c'est quasiment les seuls où on voyait à peu près une cinquantaine de supporters jusqu'à la fin du match avec les fumigènes sur le toit du Carrefour qui est juste en face, enfin du Carrefour ou du Géant, je sais plus ce que. Mais ils étaient sur le toit de la grande surface. Bon, bah. Logique.
Oui, c'est Lille, c'est pareil, c'est les grosses équipes. Il n'y a pas de surprise.
Donc ce soir, Monaco, plus que Nice, alors peut-être.
Ah, Monaco, c'est entre Monaco et Nice. Monaco reste sur une défaite à Strasbourg. Ouais. Nice revient un peu mieux quand même. Le dernier match, c'était une victoire. Donc ça fera un beau derby de la Méditerranée.
Ouais, et ben oui, ça sera sympa. Donc moi je vois bien Monaco, donc ce qui nous ferait les quatre premiers du championnat encore en course
et
pour
non,
les
cinq. Les... Non, Metz c'est sixième ou septième, c'est vrai.
Oui.
Mais Metz qui s'est qualifié aussi.
Metz s'est qualifié aussi, oui. Du coup ça va être intéressant. Je crois que c'est Marseille qui est. Non, ils sont pas cinquième, Marseille, du coup.
Non, c'est Rennes qui doit être cinquième, non.
Je sais plus.
Mais voilà, les d'autres résultats, c'est aussi la qualification de Montpellier à Alès.
Derby
Roltais. Ouais, c'est un peu, c'est pas loin.
C'est le Gard, je crois. Alès, c'est le Gard. Je comptais sur Matt, mais il est concentré sur les. Pour nous dire si Alès était dans le Gard ou dans l'Hérault. Mais
dans
pour moi,
Gard,
c'est dans le Gard. On est d'accord.
Ouais, absolument.
Mais c'est pas loin.
C'est un derby régional.
Un derby régional, on va dire. La qualification de Sedan à Saint-Louis-Nevec, donc Sedan, club mythique de Ligue 1 quand même, hein, ça reste.
Je crois que c'est deux ou quatre Coupes de France les années 60-50. Donc on les retrouve un petit peu en gras, ceux qui sont rendus en National 2, alors qu'ils ont un espèce de statut plus ou moins avec beaucoup de contrats fédéraux pour essayer de remonter le plus vite, pour essayer de remettre du monde à Louis Dugoguez.
On espère pour eux un bon tirage pour essayer de se qualifier en quart de finale. La qualification aussi de Rumilly-Vallière à Annecy. Face à Annecy.
C'était N2 contre N1. Contre National.
Donc Annecy qui n'est pas en bonne posture championnat national.
Ils sont 17e, je crois.
Ouais, ils sont avant-dernier, donc c'est compliqué cette année. Mais une belle qualification pour les clubs, pour encore un club de N2 finalement.
Oui, c'est pour ça. Les 5 de N2, je vais te les donner si tu veux. C'est Le Canet, Châteaubriant, Rumilly-Vallière, Le Puy et Sedan.
Donc ça va faire des beaux huitièmes de finale.
Qui arrache ce soir donc pour les huitièmes après Nice Monaco.
Et on souhaite à Châteaubriant de tirer un match.
Le PSG. Ouais. Très bien.
Au stade de la Ville-en-Bois à Châteaubriant, qui puisse enfin jouer à domicile après 5 tours. Exactement.
Allez, on passe sur les championnats européens. On va parler principalement des grosses affiches du week-end.
Et il y en avait dans tous les championnats.
Il y avait surtout des gros classiques et des derbies.
Allez, on commence par l'Angleterre avec le derby des Manchester.
Derby mancunien qui a souri à United, qui casse la série de victoires, de 21 victoires d'affilée de City. Ce fut un match qui s'est joué finalement dès les premières minutes de chaque période.
À peu près la première minute pour le premier pénalty obtenu
par Martial.
Martial. Et puis début de deuxième mi-temps, c'est...
Sur une relance de Henderson, c'est Shaw qui part en contre-attaque, qui a fait au bord de la surface avec une 2 avec Rashford et qui
une
frappe,
belle frappe
croisée et tout, qui surprend tout.
Tout en douceur au ras du poteau.
Exactement.
Et bravo à Ole Gunnar Solskjær, qui se fait souvent critiquer et qui avait mis un plan en place absolument diabolique. qui a même presque fait perdre ses nerfs à
Guardiola.
À Pep Guardiola, ouais.
Bah après, on a senti franchement que City, ils enchaînent beaucoup les matchs en ce moment, avec les matchs en retard qu'ils ont eu. Ils enchaînaient vraiment tous les 3-4 jours. On sentait que physiquement, ils étaient moins présents sur ce match-là. Fallait bien, de toute façon, une série, ça se finit. Donc,
Bon, toujours 12 points d'avance hein, sur Leicester.
11 avec la victoire de United maintenant, mais bon, ça reste 11 points d'avance. 11,
ouais. Oui, et puis Leicester a gagné. Nouvelle petite surprise, les Cottagers qui vont s'imposer en field.
Bah, est-ce que c'est vraiment une surprise en ce moment d'aller gagner à Liverpool? C'est quand même la sixième défaite de Liverpool à Anfield consécutivement. Donc ça reste une surprise quand même. Mais,
Et pour ton masque, c'est sur un but d'un ancien Lorientais, Mario Lemina.
Effectivement.
Liverpool a 4 points de l'Europe, donc il va falloir se battre pour accrocher la Champions. Hein.
Oui, bah je crois qu'il y a des clubs qui ont des matchs en retard. Hein.
Oui, je ne crois pas. En plus, Chelsea remonte bien, Tottenham aussi.
Il y a West Ham qui est toujours là, Everton aussi. Donc,
ouais, Leicester, Everton, ouais. Je pense qu'ils vont même peut-être rien accrocher cette année.
Ouais, sauf s'ils la gagnent. Il faudrait la gagner pour se qualifier.
Ouais, au niveau du championnat,
on reviendra, sur la Champions. Hein. C'est demain que ça reprend, on fera des petites projections. En Allemagne, Der Klassiker.
Oui, avec un match nul. Hein
bah non.
Non.
Une victoire de Munich.
De Munich, pardon.
4-2 avec un super début de match pour le Bifobi qui mène 2-0 au bout de 10 minutes.
Doublé de Haaland, de toute façon.
Je me suis arrêté à la mi-temps.
Je me suis arrêté au 2-2. Gros début de match. Haaland, hein, on sait, il est clinique. Donc, fallait s'attendre à ce qu'il s'il y avait des occasions à des buts. Et il y en a eu deux très rapidement. Mais bon, après, c'est le Bayern. Hein, ils sont. En ce moment, de toute façon, depuis avec l'année 2020, ils continuent à être très très performants.
Bon, ils se font peur et la défense prend des buts aussi. Hein, et les débuts de match sont toujours un peu chaotiques. Hein,
défensivement, ils sont un peu moins forts que l'année dernière peut-être. Mais offensivement, ça reste très solide avec Lewandowski, un triplé. Bon, voilà,
Par contre, très mauvaise nouvelle pour Haaland, il s'est blessé.
Ah ouais.
Et il en aurait pour plus ou moins un mois.
Ouais, c'est un coup dur pour Dortmund avec la Ligue des Champions.
Gros coup dur, ouais.
Et Lewandowski, 31 buts à 9 longueurs du mythique record de Gerd Müller, 40, donc 10 journées, 9 buts, il peut le faire.
Il va le faire en 2 journées.
Oui.
Il peut le faire, en tous les cas, ça serait une...
Bon, ça serait mérité pour un attaquant qui est resté en
Bundesliga. Ça serait énorme, hein, 40 buts, alors on les a vus déjà marqués en Espagne avec Ronaldo et Messi, mais en Allemagne, on attend ça depuis 40 ans, et Gerd Müller...
On surveillera les bonnes surprises que j'avais annoncées. Alors, c'est un peu foiré, moi j'avais annoncé Wolfsburg, ils ont perdu à Hoffenheim 2-1. Mais ce que je cherchais, c'était... excusez-moi.
Rasenball Sport Leipzig, qui a occupé la tête du championnat avant le Top Spiel.
Avec sa victoire 3-0 à Fribourg. Et la victoire du Leverkusen aussi à Gladbach, 1-0.
Et moi, j'étais sur le Francfort de Vincent, mais ils ont fait qu'un 1 partout face à Stuttgart.
Ouais, mais pour l'instant, quatrième est potentiellement qualifié pour la Coupe aux grandes oreilles. Pour Dortmund, comme pour Liverpool, il va falloir se battre jusqu'à la fin parce que pour l'instant, ils sont que sixième.
Et à noter que Schalke 04, qui jouait contre Mainz 05, a fait un match nul. Ça leur arrive pas souvent avec leur cinquième entraîneur. Il y a pire que Nantes.
Ouais, mais avec 10 points, ils devraient aller en Bundesliga.
Là, tu vois, par contre, on voit qu'on est en Allemagne. Bon, ils ont viré des coachs. Ils ont vu qu'au bout de 5 coachs, ça sert à rien de revirer des coachs. Par contre, ils sont en train de virer tout le reste du personnel, le responsable du physique. Tout un tas, le responsable de la com, ça dégage à tour de bras. Le recrutement, bien sûr, ça a dégagé. Donc voilà, gros ménage pour Schalke 04, l'équipe de Gelsenkirchen.
Et on passe en Espagne pour le choc des clubs madrilènes. C'était à Bernabéu et le.
Non, c'était à Madrid.
C'était au Wanda Metropolitano, Vincent est abonné.
Au Metro Wanda.
Et. Score final, un but partout. Suarez qui a ouvert le score pour Atlético et c'est Benzema qui a égalisé.
Terrible, évidemment, qui est égalisé.
Donc du coup, statu quo au niveau du championnat, ce qui
Le Barça qui est gagné, ça arrange le Barça.
Ça arrange le Barça et l'Atlético dans l'histoire.
Vrai. Oui, c'est vrai. Mais l'Atlético qui a toujours un match de retard, donc il reste avec 3 points d'avance. Mais l'écart s'est resserré ces dernières journées, donc l'Atlético n'est pas serein.
Ah non,
plus.
Ils ne sont pas sûrs de.
Ah non, ils ne sont pas surtout sereins.
Ni sûrs ni sereins. Oui. Mais,
36 points encore à distribuer, donc énormément de matchs, encore 12 exactement, donc ça va.
Ça va batailler fort.
Ouais, rien n'est fait. Bon, toujours avantage pour l'Atlético. Vaut mieux être devant dans cette situation que derrière. FC Séville pour compléter le quatuor, j'ai envie de dire. Alors, rien ne bouge en Espagne.
La Sociedad qui fait aussi une victoire, donc là, qui se rapproche de Séville, qui est juste à 3 points. Donc,
Fait un chouette début de saison avant de s'écrouler un peu.
Mais là, ils reviennent un peu. Donc,
Du coup, j'ai pas suivi. Est-ce que quelqu'un a suivi la Coupe du Roi donc, il y a Barcelone qui est passé en finale.
Barcelone, et c'est l'Athletic Bilbao qui, après sa victoire en Supercoupe d'Espagne, va rencontrer une nouvelle fois le Barça en finale en éliminant les
24. Petite anecdote, ils vont jouer en un mois. Deux fois, parce qu'ils sont qualifiés sur la finale de la Coupe du Roi de l'année dernière.
Ouais.
Donc, ils vont jouer deux fois la finale de la Coupe du Roi dans la même partie de saison. Ça va être rigolo à voir.
Tu préfères gagner laquelle, contre le Barça ou celle de la 2020?
J'espère pour eux qu'ils vont au moins en gagner une. Parce que si tu fais deux finales dans la même saison, plus la finale de la Super Coupe, et si tu gagnes pas là, ça serait frustrant.
Ouais, ils ont gagné quand même la Super Coupe en début 2021. Donc. Mais c'est sûr que ça serait quand même dommage de perdre les deux finales.
Puis le plaisir, c'est pas une super coupe, c'est la Coupe du Roi. C'est comme la Coupe de France. On s'en fout de gagner le trophée des champions, c'est la Coupe de France qu'il faut gagner.
Exactement, exactement.
Bon, en Italie, la Juve a battu la Lazio pour le match vedette de la 25e journée 26. De Serie A. Et court toujours après les deux Milan qui sont installés aux deux premières places.
Milan avec sa victoire face au Genoa. L'Hellas Vérone 2-0 à l'Hellas Vérone. Bon, ils étaient un petit peu moins bien ces derniers temps. C'est une victoire qui va faire du bien. L'Inter qui joue ce soir face à Bergame. Faut espérer un match nul pour eux ou une victoire de Bergame pour que parce qu'ils sont qu'à 3 points.
Ouais, ça peut arriver.
Ça va être finalement un peu un duel milanais pour le titre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
Oui, oui. Et puis ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas été champions de l'Inter, je crois, quelque chose comme ça à peu près.
C'était avec Mourinho.
Il me semble, oui.
Au Portugal, le Sporting devrait ramasser le titre.
Oui.
10 points d'avance sur Porto, c'est rare.
Ça fait longtemps que le Sporting. Alors j'avais vu une fois les stats, oui, ils ont longtemps été devant les stats. Ils sont loin derrière maintenant les deux autres équipes portugaises, et Benfica et Porto, mais ça sera leur 13e titre, je crois, un truc comme ça.
Et est-ce que vous avez l'info, est-ce que les Rangers sont sacrés?
Ils sont sacrés.
Effectivement, ils sont sacrés avec l'équipe de Steven Gerrard.
10 ans après leur dernier titre et surtout un passage en Division 4.
Exactement, ouais. Parce qu'il y a eu faillite.
Effectivement. Mais donc un beau titre.
Ouais, et puis on les a revus sur la scène européenne, qualifiés pour les huitièmes de la Ligue Europa.
Et du coup, ils seront qualifiés pour la Ligue des Champions l'année prochaine.
Je sais pas si le champion d'Écosse est directement qualifié. On n'en a pas vu un dans les poules cette année, donc ils ont peut-être.
Ils ont un passage sur le deuxième ou troisième tour, je crois.
On espère pour eux, parce que c'est quand même un grand club d'Écosse et tout, et ça serait beau de les revoir en Ligue des Champions.
Absolument, oui.
Je suis désolé, je ne vous suivrai pas, je suis supporter des Boys, et je n'aime pas les Jers.
Moi, je suis Team Rangers.
Bon, demain, retour de la Champions League pour 8 équipes. Alors, on démarre avec le PSG-Barça, qui devrait être une formalité pour Paris, mais on va quand même se méfier d'une réaction d'orgueil des Blaugrana.
C'est un peu mis en ce moment, donc faut faire attention. Il y a déjà eu une remontada, c'est plus les mêmes joueurs. Donc il y a Neymar qui serait potentiellement dans le groupe, apparemment. Donc Paris devrait logiquement.
Paris pour tout le monde, Paris en quart pour tous.
Alors s'il y a remontada, élimination de Paris, déjà que je voulais envoyer l'OM à Solenzara dans le camp de la Légion étrangère, je crois que je mettrai les deux équipes pendant à peu près 2 mois et je les ferai fondre à toute vitesse. Non, sérieusement. Pas deux fois.
Ah non, là, non.
Pas deux choix contre le même club.
Je crois qu'ils ont compris.
Ils ont Neymar. celui qui avait fait la...
Parce que sinon, tu risques de virer beaucoup de monde au PSG.
Bon, pour Paris, ça devrait passer. Pour Leipzig, ça va être compliqué. Hein. Défait à la maison 2-0. Mmh. Pour retourner la tendance...
Alors, encore une fois, un match qui se joue en Hongrie, à Budapest.
Ouais, donc ça, c'est peut-être à l'avantage de Liverpool, vu qu'ils jouent pas Anfield et qu'on sait comment ils sont à Anfield actuellement.
Oui, je suis d'accord. Donc, Liverpool.
Liverpool, ouais, pareil.
Bon, Liverpool aussi, je pense que ça devrait passer.
Juve Porto.
La Juve en difficulté, ouais, après sa défaite au match aller 2-1.
Ben, vu que Porto ne gagnera pas le championnat du Portugal, enfin, est mal parti pour gagner le championnat du Portugal. Je pense qu'ils vont...
Bon, 1-0 suffit à la Juve hein, pour se qualifier avec ce résultat.
Mais Porto va se ultra motiver.
Bah, c'est la grosse cote. Hein. Si vous voulez gagner de l'argent, c'est là où il faut mettre son pognon demain.
Bah, moi, le prono de Charles, je vous conseille de mettre ce sur Porto.
Je vous rappelle,
il y a Porto qualifié et Porto vainqueur. Hein.
Porto
ça va
qualifié.
Pas être
bah,
la
Porto
même cote. Porto qualifié.
Porto qualifié.
Et ben on suivra ça. Et pour le dernier match
Dortmund-Séville,
avantage Dortmund hein, qui a été s'imposer à Séville 3-2.
Ouais, bah ça va faire ça.
Mais
va
attention,
faire bonne,
attention,
retour, hein.
Attention à Séville hein, qui sont capables de sortir un match.
Va falloir au moins marquer deux buts en soi parce que 1-0 ne suffit pas avec les buts à l'extérieur. Donc, mais ça va. Bah on sait que Dortmund est assez friable défensivement. Ils n'ont pas Haaland s'il est blessé, ça va être compliqué.
Oui, oui. Ça devrait s'arrêter pour Séville qui ne sera pas redistribué,
reversé
en Ligue Europa et donc qui ne la gagnera pas pour la sixième fois. Oui. Les spécialistes du reversage en Ligue Europa cette fois-ci, bah, ils devraient quitter la Ligue des Champions en huitième de finale et voilà. Et
oh, mais on ne sait jamais quand même.
On s'accordera à dire que ce n'est pas un grand d'Europe.
Bah si c'est...
Alors peut-être c'est pas un grand d'Europe, mais du coup ça place le PSG et l'OM comme des nains de jardin.
Ou même tous les clubs français.
Et je parle même pas des autres, du coup.
On parle même pas des autres.
Pour ceux qui joueront la semaine prochaine, c'est quasiment fait. City, Real et Bayern hein, dans un fauteuil pour la qualif. On voit pas l'Atalanta et les autres clubs qui leur sont opposés renverser la vapeur. La seule incertitude, c'est Atlético-Chelsea.
Ça va être très, très intéressant. C'était match nul à l'aller.
1-0 pour Chelsea à Madrid.
Exact, ouais. Exact.
Donc,
petite piécette sur
Vincent Chelsea.
Vincent, bouge-toi les oreilles sur Chelsea.
Bon, ça c'est dans une semaine. Bon, on clôture la page football. On va aller sur d'autres terrains, des terrains enneigés. C'est Snowpark pour parler de sport d'hiver.
Pendant ce temps-là, Martin Fourcade est déjà en train d'en terminer. Quelle réaction du patron du biathlon mondial. Le 10e titre de champion du monde à titre individuel pour Martin Fourcade. Champion Fourcade.
Snowpark, l'actualité des sports d'hiver, tous les lundis de 19h à 20h dans Money Time.
Money Time.
Et pour la 8e étape de la Coupe du Monde, les biathlètes du circuit étaient en République tchèque à Nové Mesto et week-end royal pour un Français.
Simon Détieux.
Eh oui, c'est Simon, enfin
qui courait derrière sa première victoire en Coupe du Monde.
Ah bah, il courait depuis très longtemps, il avait fait 5 deuxième places et 3 troisième places.
C'est quoi, c'est 273 courses, je crois, un truc comme ça.
Mais c'est énorme, ouais, hein. c'est dans énorme. L'ombre de Martin Fourcade.
Oui, dans l'ombre de Quentin Fillon-Mayet, Emilien Jacquelin, mais il a toujours été présent et récompensé.
Bah, il avait montré des bons signes hein, aux Mondiaux.
Ouais. Voilà, c'est sa médaille prise aux Mondiaux.
Pas que du cas, hein. Première médaille mondiale pour lui en individuel, voilà. Hein, qui était donc sa deuxième place. Le sprint. Mm.
Et du coup, eh ben là, sur le sprint, il l'emporte, superbe tir.
Un 10 sur 10.
Bah, c'est ce qu'il faut, de toute façon.
Et les trois premiers sont à 10. Hein. Il l'emporte devant Samuelsson.
Samuelsson et Pfeiffer.
Et Arne Pfeiffer. La grille vient mourir au pied du podium avec une quatrième place. Les Français, Fillon-Maillet et Jacquelin, 7 et 8. Place d'honneur.
Ouais, des petites
et Beu, déception, 11e, donc qui laisse des points encore à l'Aigrid.
Oui, mais il va se rattraper un peu
pour la poursuite. Celui qui est le mieux parti, c'était Simon Détieu, mais il va rater une balle dès sa première série de tirs. Et on va le voir faire une grosse bataille. Il s'est fait ?
Bah, il s'est fait, du coup, il s'est fait un peu rattraper.
Oui, oui, il s'est fait, j'avais compris autre chose. Et du coup, c'est une surprise.
Bah, par rapport aux trois qui étaient sur le podium, hein, c'est le seul qui remonte, hein, puisqu'il fait mieux que Samuelsson et Pfeiffer, hein, en allant chercher encore un podium ce jour-là. C'est Tarayebe qui a été impérial. Ouais.
C'est le grand frère qui a gagné et pourtant on s'y attendait pas trop parce qu'il avait pas trop réussi ses championnats du monde et ben finalement bel orgueil, on va dire ça
ouais,
comme ça.
Non, mais Terrier Beu, c'est bien. Belle presta. Devant Johannes Beu.
Devant le petit frère, ouais, Johannes, qui prend quelques points. Ce qu'il avait perdu la veille, il essaye de le récupérer, mais ça, je sais pas si ça va suffire. Hein,
bah, il est toujours devant.
On en a parlé la semaine dernière de ce fameux duel. Bah, aujourd'hui, dans le fameux duel, il y a 33 points.
C'est serré.
Ça sera intéressant.
5 courses encore à faire. C'est plus que jamais très serré.
Mais je pensais à Simon Détieu, quelle fin de course, parce qu'il est 6e, hein, en partant du pas de tir et il fait une remontée de folie pour arracher cette 3e place au nez à la barbe de Quentin Fillon-Maillet et de Emilien Jacquelin.
Alors, ouais. Je ne sais pas si on peut parler de sa plus belle année, mais en tous les cas, moi qui l'avais mis au placard déjà l'année dernière, bah, il me montre qu'il a encore des ressources à son âge. Et allez savoir,
plus, hein.
Ce week-end, on reste à Nové Mesto. On est reparti pour sprint poursuite.
Ouais. Moi, je le vois faire encore.
Ouais, je pense un podium au moins sur le sprint ou la poursuite.
Je le vois, ouais, placer sprint. Ouais. Je le mets dans les trois, ouais, ça c'est clair.
Donc, on ne sait pas si c'est sa plus belle année de biathlon, mais en tous les cas, en termes d'émotion, ça doit être sa plus belle parce que là, une victoire en Coupe du Monde, une médaille mondiale.
Truc, c'est que c'est des courses, des victoires et des médailles en individuel. Lui qui a été beaucoup habitué à faire des performances
en équipe,
sur les relais.
Là, vraiment, il peut enfin s'affirmer comme
un des gros leaders
leader de fin de saison.
Bah,
ça
doit être un des leaders avec Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Ça doit être les trois qui sont supérieurs aux autres.
En tous les cas, il remet un peu l'église au milieu du village en montrant que c'est.
Il est là. Et que ses podiums des années précédentes, il s'était pas sorti de nulle part.
Et qu'une victoire en Coupe du Monde, c'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de bons biathlètes qui n'en ont pas. Hein. Je pense à des Rastorguiev, ou bien encore Benjamin Weger, des biathlètes qui sont sur le circuit depuis plus de 10 ans, qui n'ont jamais gagné. Donc, je rappelle qu'Emilien Jacquelin n'a pas de victoire en Coupe du Monde.
Non plus.
Donc, comme quoi, c'est...
C'est pas si facile que ça.
Non, c'est loin d'être facile. Et puis, on verra bien.
Bon, chez les femmes...
C'est ce que j'allais te parler.
On passe chez les femmes avec un record de victoire, de doublé même, on appelle ça. Un record de doublé pour tirer les cosses, sprint poursuite, c'est son 6e de rang.
Exactement.
C'est la plus forte.
Elle est au top comme jamais. Et puis surtout, elle, qui est toujours aussi rapide, a trouvé plus ou moins la sérénité et la gestion avec sa carabine.
Ouais, c'est sur le tir, ça lui manquait hein, les années précédentes, où on la sentait plus fébrile. Là, cette année, on la sent parfaitement parfaite. Et
elle a trouvé un énorme mental. Elle est encore très jeune, hein, parce qu'elle a commencé tellement tôt. Mais
elle a 24 ou 25 ans.
Elle a 30 ans. Hein.
Avant 30 ans.
Oui, elle a 30 ans.
Je la faisais plus jeune. Mais ouais, elle est. Enfin, c'est vraiment une. Bah, c'est son année en soi. Elle remporte quasiment tous les sprints et les poursuites. Enfin.
Ouais, là, elle a fait.
C'est la plus rapide.
Au général, elle a fait un petit trou sur Roy Zeland. Donc, on rappelle, elle gagne le sprint devant Julia Zima et Vitozzi qui enfin monte sur la boîte.
Ah, ça sentait depuis ça. On attendait ça depuis longtemps, surtout en individuel où. Depuis deux ans, elle était moins présente sur les résultats. Et voilà, c'est un beau podium pour l'Italienne.
Ouais, ça va lui donner du baume au cœur. Pour les Françaises, c'était Justine Brezaz, la meilleure à l'issue du sprint, 9e. Anaïs Chevalier, 15e, et Julia Simon dans les profondeurs, 35e, condamnée pour un résultat le lendemain en poursuite.
Entre les deux, il y avait Anaïs Bescon. Mais surtout, la belle performance, moi je retiendrai, puisque je n'ai pas vu sur les, chez les garçons d'Emilien Claude venir, puisqu'il était sur les championnats du monde junior, où il a ramassé 2 médailles en individuel.
4.
Deux en individuel. Par équipe. Mais par contre, les filles avaient fait venir Lou Jean Monod.
Ouais, qui se qualifie pour la poursuite à l'issue de sa 30e place sur le sprint.
30e place sur le sprint, elle fait...
34 sur la poursuite.
Ouais, quelque chose comme ça, 34-35. Mais du coup, première apparition, elle fait 2 courses. Elle fait, je sais plus, 10 sur 10, je crois, hein, au sprint, et 18 sur 20 hein, en poursuite. Belle prestation pour une petite jeune qui arrive et qui a fait mieux que Chloé Chevalier, par exemple.
Quand on sent que l'équipe de France féminine, c'est pas forcément tout le temps ça, c'est assez irrégulier et tout, c'est sur le tir. Là, ça fait, on sent que c'est la jeunesse qui pousse un petit peu et tout, et on sent que de toute façon, ils sont pas très loin que les autres.
On l'avait remarqué un petit peu en compétition aux Europes l'année dernière. Mais c'est. Et puis, comme celle qui a gagné chez les filles, c'est Chloé Benet, je crois, qui a gagné une médaille en individuel aux juniors. Du coup, c'est bien. On profite de la fin de saison pour faire monter les jeunes athlètes et c'est plutôt une bonne chose.
Ouais, Emilien Claude, est-ce qu'on va le voir sur le circuit Coupe du Monde l'année prochaine ?
On l'avait déjà vu
en début de saison, il avait fait une apparition.
On le verra. Moi, je me posais la question. Alors là, du coup, comme c'était court avec les championnats du monde junior, évidemment, on ne pouvait pas l'avoir là. On ne l'aura pas non plus, je pense, sur la suite à Nové Mesto. Mais je mets une pièce pour le voir à Östersund.
Moi aussi.
Je pense qu'on le verra à Östersund.
On suivra ça. Au général, chez les filles, hein, ça recule hein, pour Simon Brezaz, hein, 14 et 15e.
Et 16e, Bescon.
Juste devant Bescon. Hein, tir groupé des Françaises dans le...
Bescon, meilleur perf en poursuite de l'équipe de France.
Ouais, c'est ça.
Elle est...
8 ou 9.
Ouais, 8 ou 9. Ouais. Mais même si elle n'avait pas fait d'erreur, en fait, elle ne pouvait même pas être dans les fleurs. Hein.
Non, mais de toute façon...
Mais c'est une belle perf, il faut la saluer.
C'est une belle perf.
Ouais, avant que Mathieu nous l'enterre, on sent qu'il va nous l'enterrer.
Anaïs ?
Oui.
Je l'avais déjà enterré. Ça fait déjà 3 ans.
Il enterre tout le monde.
Oui. Faut peut-être pas l'enterrer si vite, mais...
Elle fait 8e, c'est ça.
Allez, ouais. on passe au ski alpin. Là aussi, on parle de Coupe du Monde. Et attention, la menace Audermatt. Hein, on en parlait la semaine dernière. Pinturo dans un fauteuil. Pinturo, le gros globe. Attention, 81 points au général d'avance. Seulement après ce week-end. Hein, pour Alexis Pinturo, c'était les épreuves de vitesse à Salbach. Et Marco Audermatt a marqué des points, Charles.
Il a fait une grosse performance en gagnant le Super G. Il finissant 5e de la descente.
Alors ça, c'est une perf, 5e de la descente.
Ah bah oui, c'est pas forcément un grand descendeur, c'est pas forcément parmi les meilleurs, mais il a fait ce qu'il fallait.
Il est là en vitesse, on l'a vu sur la descente le samedi et le dimanche, il claque le Super G. On attendait Pinturo mieux classé, malheureusement Alexis est 15e.
Ouais.
Donc ça fait pas des gros points.
Il limite la casse, on va dire ça comme ça.
145 points de prix sur un week-end et il y a une descente annulée vendredi.
Aussi.
Hein.
Oui, aussi.
Donc attention, Pinturo, là vraiment en grand danger. On rappelle, il reste 6 épreuves.
Après, il reste quand même là plutôt des épreuves, 4 épreuves sur 6 où c'est plutôt des épreuves techniques, donc en faveur de Pinturo. Ça semble quand même, s'il ne fait pas n'importe quoi,
est-ce qu'il va supporter la pression hein, Éternelle question. Ouais, la descente, c'est Krischmeier, hein, d'ailleurs, qui s'adjuge le globe de la spécialité. Hein,
On l'a senti, hein, de toute façon, c'est lui qui a gagné au championnat du monde, le Super G et la descente et tout. Bon, on sent que c'est un des meilleurs descendeurs du plateau, donc bon, c'est sans surprise, on va dire ça comme ça.
Fuse également et Mayer, d'autres grands descendeurs sur la boîte. En Super G, la perf est venue d'un Français qu'on n'attendait pas.
C'est Mathieu Bellet. Une belle deuxième place pour lui. Ça,
premier podium en Coupe du Monde.
Et bah voilà. Donc
derrière donc Audermatt et devant Krischmeier. Donc rendez-vous ce week-end à Kranjska Gora pour un géant. une affrontation directe hein, entre les deux premiers de la Coupe du Monde, hein, puisqu'on aura Odermatt et Pinturo au départ de ce géant. Et le lendemain, un slalom, là où Pinturo, il va falloir qu'il marque des points.
Va falloir...
Absolument qu'il reste sur le tracé, Charles.
Ah bah là, va falloir marquer des gros points, parce qu'Odermatt, on sait qu'il n'est pas là, sur cette épreuve-là. Pinturo doit faire le job pour reprendre un maximum de points et essayer de s'assurer un confortable matelas pour éviter d'avoir trop de pression.
Chez les femmes, c'est pas fini non plus. On avait un peu enterré vite Petra Vlova. C'était les épreuves techniques à Jasna, chez elle en Slovaquie. Et Petra fait le plein. 180 points, hein, puisqu'elle s'adjuge le géant devant Robinson et Schifrin. Et en slalom, et ben, c'est là aussi une belle perf. Deuxième
derrière Schifrin. Donc Vlova a bien réagi face aux bonnes performances de Gudberami à Val di Fassa.
Et bon. 36 points de retard. La ça semaine prochaine, on est à arrêt pour deux slaloms, donc sans la ragute. Et là, Petra Vlova peut prendre 200 points.
Ah bah là, elle peut faire le carton plein et reprendre la tête du général avec une large avance. Mais comme on voit que ça va assez vite finalement, ça va être très serré jusqu'à la fin.
Chez les hommes comme chez les femmes, ouais, fin de saison incroyable où on pourrait avoir... Les deux vainqueurs du globe qu'on n'attend pas, on va suivre ça, hein. On en saura plus après les finales de Lenzerheide. Allez, on va faire un petit tour au Kazakhstan, à Almaty, là où on aurait bien aimé que les JO 2022 se tiennent. Hein, malheureusement, on le sait, ça sera à Pékin. Moi, j'ai découvert le site. C'est franchement très sympa, très nature.
À vous, t'as été invité par
Astana. Ouais, moi, je fais du lobby pour le Kazakhstan. Perrine Lafont qui va chercher le titre qui lui manquait à son palmarès, voilà. Hein, c'est-à-dire boss individuel.
Championne du monde de boss individuel.
On peut dire largement, mais bon.
Devant Galicheva, attention, Galicheva portée dernière en finale.
Elle était quand même tenante du titre. Bon, on ne savait jamais ce qui pouvait se passer. Mais Chez elle en plus. Mais on a senti quand même Perrine Lafont.
J'ai vu la course, j'avais trouvé que les sauts de Galicheva hein, sur la super finale étaient vraiment au-dessus de ceux de Perrine Lafont.
Je les ai trouvés peut-être un peu moins... ils étaient peut-être plus impressionnants, mais moins propres. Surtout sur le deuxième.
Sur les réceptions.
Sur les réceptions, on sentait quand même qu'elle était moins...
Elle était moins vite que Perrine.
C'est important, la réception. Ouais. Et puis chez les garçons...
Ben Cavé derrière l'intouchable Kingsbury. Le Canadien, cinquième fois champion du monde matin à Almaty. Devant Kavé et Kolmarov, le Kazakh, hein, qui monte sur la boîte à la maison. Demain, on fera les épreuves parallèles.
Hein. Et là, on attend encore un titre pour
Perrine. Un autre titre pour Perrine. On l'espère en tous les cas. C'est bien parti pour ces championnats du monde de ski de boss. Je crois qu'on a été complet sur les sports d'hiver. On va pas parler de nordique parce que nos Français n'y brillent pas. Donc, on va passer
au sport local.
Au sport local, c'est score en stock. Les scores de nos clubs nantais.
Money time. Score en stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en stock. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Bon, alors dans ce score.
On va rester sur du blanc si tu veux bien. On va parler des Corsaires. Qui recevaient... alors, déjà, je précise, ils enchaînent une troisième victoire puisqu'ils avaient battu Neuilly au Petit Port et ils ont été gagnés à Tours au Rempart 9-3. Belle performance. Et là, ils recevaient Cholet pour un derby au Petit Port et un match superbe. Une victoire 4-3 pour les Corsaires. 1-1 dans le premier tiers, 1-0 dans le deuxième, et puis 2-2 dans le troisième tiers, puisque Nantes qui mènera 4-1 au vu des pénalités verra Scholler venir à 4-3. Les buts nantais, Hamelin deux fois, Brenton et Bergeron. Brenton qui sera exclu pour 20+5. Donc un gros déficit de joueurs pour de pénalités, voilà, pour les Nantais, pardon, excusez-moi, beaucoup de pénalités subies par les Nantais. Et on écoute l'avis de Martin Lacroix.
Je pense que dans ce match-là, je pense que c'est un match où je pense que les gars se sont... On a été excellents, selon moi, à désavantage numérique. On a été drôlement pénalisés ce soir. J'ai trouvé... je pense qu'on avait le match quand même dans l'ensemble en plein contrôle. Même à 3-1, on était bien. Puis là, ben, ça aurait pu être dangereux au troisième tiers de... quand on a pris les 5 minutes de pénalité. Puis après ça, on s'est ramassé à 5 contre 3. Les joueurs ont fait beaucoup de sacrifices, ont bloqué beaucoup, beaucoup de tirs. Puis non, je pense qu'il y a eu quand même... évidemment que ça a été chaud jusqu'à la fin, parce que quand une équipe revient, ils sont revenus avec un but en power play, puis ensuite un but en cage avec en 6 contre 5 vers la fin. Ça aurait pu évidemment être dangereux, mais je pense qu'on mérite sincèrement ce match-là, puis il n'y aurait pas eu de justice si on n'avait pas gagné, si on n'avait pas pris les 3 points ce soir. Mais après, Cholet n'a pas démérité. Cholet, ça quand même, ils sont défoncés, on joue jusqu'au bout. Je pense que si on n'avait pas pris cette pénalité-là, mettons, au troisième tiers, je pense que jamais qu'il serait revenu... Qui serait revenu dans le match de cette façon-là, parce qu'à 5 contre 5, j'ai trouvé qu'on était en plein contrôle du match à 5 contre 5. On avait beaucoup la rondelle, on a mis quand même beaucoup de pressing. Puis après, ben c'est sûr que... voilà. Mais dans l'ensemble, je suis quand même très content. Puis c'est jamais des matchs faciles, les derbys contre Cholet. Puis ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais été mené au score. On a mené 1-0, c'était venu 1-1. Après, on a pris les devants, puis... on a suggéré jusqu'à la fin, fait que c'est bien. Alors, on a bien fait ça dans l'ensemble, puis c'est un beau 3 points qui fait du bien. Voilà.
Toi qui étais devant, est-ce qu'elle est sévère, la sanction de Brenton?
J'ai pas vu la charge parce que c'est arrivé, moi je suis sur le banc, puis c'est arrivé comme sur la droite, à ma droite, sur le bord de la balustrade, fait que je l'ai pas vu. Je peux pas le voir, puis il faudrait que je regarde sur la vidéo. Puis il y en a qui me disent que la vidéo montre peut-être pas très, très bien, là, parce que nous, on va quand même vouloir voir avec la Ligue. Si la Ligue, ils veulent lui donner une suspension et tout. Moi, j'ai pas encore vu la vidéo, fait qu'il faudrait que je la voie pour mieux juger.
Mathieu Brenton, à qui on reproche une charge à la tête, du coup, qui avait pris 20 minutes plus 5, hein, il n'a pas rejoué de la fin du match, c'était dans le troisième tiers. On espère que la Ligue ne sera pas trop sévère, parce qu'il pourrait nous manquer, ça serait embêtant. Les Corsaires qui vont faire une double confrontation contre Caen sont actuellement deuxièmes derrière les Corsaires de Dunkerque. Mais les Corsaires de Dunkerque ont un match de plus, donc en gros, ça peut...
Bon, ça va nous amener en play-off, tout ça, de toute façon. Oui. Pas de problème pour les Corsaires. Un mot de volley, puisque ça jouait pour les garçons et pour les filles.
Exactement. Allez, on commence par les filles. Le VBN qui se déplaçait...
Chez le leader,
l'ASPTT Mulhouse. Défaite 3-7-2. 25-15, 19-25, 25-16, 20-25, 15-9. Meilleure marqueuse, Elena Cazotte pour Mulhouse, et puis Carly Snyder pour Nantes, 24 points, 27 pour Elena Cazotte. Nantes, belle prestation, mais ça suffit pas. Le VBN est troisième avec 39 points, un point d'avance sur le Canet.
Et pour les boys du NRMV, c'était un déplacement là aussi chez le leader.
Exactement, à Montpellier, défaite 3-7-1 pour le NRMV, 25-22, 25-13, 27-29. Et 25-20. Le meilleur marqueur montpelliérain, c'est Ryan Scalter avec 17 points. Et pour Nantes, c'est assez réparti. Adam Bartos, 11 points. Et Célestin Cardin et Sergio Noda, le capitaine, ont tous les deux 10 points.
Ouais, le NRMV est 13e, mais devrait se maintenir à l'issue de la saison.
Et j'allais dire,
3 points d'avance sur Ajaccio.
Fait,
hein,
simplement 3 points d'avance sur Ajaccio, un point de retard sur Nice. Mais je m'emballerai pas. Et puis, dans le haut volet, pour signer.
Hein, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment
faut,
très sérieux.
Faut rien lâcher. Hein, parce que moi, j'ai bien envie de voir mes derbies face à Saint-Nazaire, qui devrait, s'il gère bien, monter en Pro A. en Liga, pardon, puisqu'ils sont en tête. Bon, ils sont en phase de play-off, mais ils sont largement en avance. Faudra pas se rater, hein, ces systèmes de play-off, mais bon, j'ai pas d'espoir pour Saint-Nazaire.
Une Entreuzé qui jouera Nice la prochaine journée, ça va être un match décisif.
C'est ce que j'allais dire. Match ultra important, il faut pas se craquer contre Nice.
Et surtout que c'est à domicile, on va
exactement
gagner.
Exactement, c'est à du gars.
Handball, les Roses, le NHB, se déplaçaient à Metz, mais match reporté.
Alors, j'allais te le dire, Metz, c'est un peu compliqué avec le Covid.
Moselle, ouais.
Donc, Metz, restrictions, le match a été reporté contre Nantes. Les matchs contre Dortmund en Ligue de Champions se joueront tous les deux à Nancy.
C'est ça, ouais.
Donc, ça sera le week-end prochain, vendredi et dimanche, je crois. Et du coup, Nantes va jouer son deuxième match contre Chambray. Ça sera mercredi à 18h. J'irai là-bas pour vous. Et par contre, je voulais vous parler, du coup, on a le tirage complet pour l'Europa League de handball pour les Roses qui affronteront l'étoile de Zvenigorod. Donc, Zvezda Zvenigorod, région dans l'oblast de Moscou, dans la région de Moscou. Une équipe qui a gagné une fois la Ligue des Champions, une fois également l'Europa League, une fois champion de Russie en 2007 et trois fois vice-champion, quatre Coupes de Russie. Alors c'est une équipe qui a été une très très bonne équipe, hein. Rappelons que Nantes n'a aucun titre. Okay. Le seul truc que Nantes a de plus, c'est qu'ils sont nés en 98 et Zvenigorod en 2002. C'est juste plus vieux. Mais... j'ai bon espoir qu'ils ramassent quelque chose. Un dernier mot, Coupe de France, on connaît déjà les demi-finales. D'un côté, ça sera Brest-Metz et de l'autre, ça sera Nice contre le vainqueur de Fleury-Nantes qui se jouera le 7 avril. Sachant que si c'est Nantes qui l'emporte, ils joueront la demi-finale à Mangin.
Alors, pour être complet, chez les garçons, il n'y avait pas de match, mais on a le tirage au sort de la Champions League et ça sera l'équipe de Kielce, le champion de Pologne, de notre ancien pivot Nicolas Tournat, qui sera opposé donc au H, week-end 31 mars, 1er avril.
Exactement, et c'est ce qu'on voulait, oui, puisque du coup, puisque le match n'a pas eu lieu contre Veszprém, ils ont décrété que c'était match nul, 5-5. Bon, pourquoi pas. Mais tant mieux, du coup, j'avais une petite question, moi. Comment vous voyez les affiches? On sait que Nantes, ça sera qu'il sait. Et en cas de victoire, ça serait le vainqueur de Vardar Veszprém.
Écoute, tout est jouable, selon moi. Maintenant, Kielce, c'est un nouveau championnat qui commence, hein, un championnat à élimination directe. Il va falloir faire le job. J'en sens Nantes capable. Et puis, on ne va pas parler de leur adversaire d'après, puisque ça ne sert à rien de se projeter si loin.
Déjà,
heureux de ne pas affronter Paris.
Oui, Paris qui jouera Célier. Et en cas de victoire, Paris jouerait Kiel je ne sais plus.
Kiel.
Mais on va dire Kiel. Donc PSG Kiel. Donc déjà, il n'y en aura qu'un des deux.
C'est ça. Et la route semble fort ouverte, hein, pour le Barça qui, après normalement s'être débarrassé d'Elverum, rencontre le vainqueur de Meshkov-Zarapoudji.
Oui.
Ça devrait être une formalité. Et pareil dans l'autre groupe pour Flensburg qui aura en cas de victoire en huitième Porto.
Porto ou Aalborg.
Porto ou Aalborg. Donc ça paraît fait aussi pour Flensburg.
C'est ce que j'allais dire. Je verrais Flensburg, Barça, Paris. Et puis après, j'ai envie de te dire Nantes.
On va dire Nantes, mais on en reparle dans un peu plus de trois semaines.
Oui.
Pour être complet sur le score.
Oui, pardon.
Pour être complet sur le score, avant de passer au reste de l'actu, il nous reste 7 minutes. Vannes qui bat Mont-de-Marsan 33-20, qui conforte sa place de leader de Pro D2, 81 points devant Perpignan 79. Ça sent bon pour le RCV. Hein.
Ça sent bon pour la montée.
Alors, il faudrait quand même sortir, éviter le play-off en cas de pas finir deuxième pour éviter un play-off. Un tout petit mot, vite fait, en basket pour dire que l'Hermine est septième après 10 matchs et le NRB est quant à lui 11e sur 12 après 16 matchs avec seulement 3 victoires, Tarbes, Saint-Amand et La Roche, et il y aura un match hyper important à Choret. Et pour l'Hermine, j'ai une question, parce que le 19, ils doivent jouer Rouen et Évreux.
Oui, mais on va de report en report et on l'a bien compris.
C'est sur le calendrier, les deux matchs sont programmés
pro,
le même jour.
En Pro B, on ne joue plus. On ne joue plus, les présidents de club veulent arrêter le massacre. Pas de recette, pas de match, donc report. Tous les matchs sont reportés depuis déjà 8 journées. Allez, on passe sur Multizone, le reste de l'actualité.
Money time. Multizone, tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on a suivi les Strade Bianche en Toscane, hein, ce qu'on appelle ou qu'on va bientôt appeler le sixième monument. Une course magique, Charles.
Bah déjà, première indication, c'est Alaphilippe qui l'a dit lui-même que cette course mériterait d'être un monument. Et ce fut une course avec les favoris qui se sont détachés.
Un groupe royal, hein, un groupe royal à 50 km de l'arrivée qui se détache avec les deux anciens vainqueurs du Tour, Pogacar et Bernal, les phénomènes du cyclocross, Pidcock, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, plus bien sûr Julien Alaphilippe. C'était le plateau de rêve, l'échappée royale.
Voilà, c'était l'échappée royale, les favoris, les gros du plateau mondial du cyclisme. Et ce fut une belle bataille, hein. Résultat.
Dans le dernier secteur de chemin blanc, c'est le jump de Mathieu Van Der Poel, hein, l'attaque qui laisse le groupe sur place. Alaphilippe et Bernal reviendront dans la douleur.
Exactement, seul Alaphilippe et Bernal reviendront sur Mathieu Van Der Poel et ce fut un petit groupe à trois qui vont se jouer la victoire, mais on a senti qu'il y en avait un qui était au-dessus du lot. Je te laisse
dans l'ascension finale, encore Mathieu Van Der Poel, hein, qui sort sa grosse, qui relève sa grosse carcasse et pour démarrer et laisser sur place Julien, hein, qui prend 10 secondes très rapidement.
Exactement, il ne peut rien faire. On a senti que Mathieu Van Der Poel a d'un coup il a tout lâché et Alaphilippe il pouvait jamais le suivre. Il a envoyé un gros coup de sacoche et Bernal, lui, il était déjà à la limite. Il a rien pu suivre du tout. Mais il a mis Alaphilippe qui est censé, qui est quand même un des gros punchers et tout.
Vu avant lui des Peter Sagan démarrer assez violemment, ou même lui, Julien Alaphilippe, il a construit ses plus beaux succès comme ça. Mais j'ai l'impression que là, on a affaire à un garçon encore plus fort.
Voilà, alors.
Sur l'explosivité, vraiment, Mathieu Van Der Poel, il y a rien qui peut l'arrêter.
Là, c'est une côte qui dure quelques centaines de mètres, 200-300 mètres. Il a mis un coup de rein là. Il a rien pu, Alaphilippe n'a rien pu faire. Et victoire logique de Mathieu Van Der Poel.
Il sera aligné sur le podio pour essayer d'aller chercher un deuxième monument. Ça sera le 20 mars. Avant ça, il est aligné sur Tirreno Adriatico, superbe plateau. Hein, Landa, Sagan, Alaphilippe, Almeida, Pino, Van Aert, Pogacar, Nibali, Bardet, Quintana, Vulsang. Voilà.
C'est ceux qui font les classiques italiennes en ce moment et tout. Donc, il n'y a pas de surprise, mais c'est un gros plateau et ça va nous réserver de belles étapes.
Ça démarre mercredi. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a démarré hier avec une première victoire au sprint pour Sam Bennett.
C'est Paris-Nice. Paris-Nice qui a commencé hier. La victoire pour l'Irlandais, ça fait déjà la cinquième ou sixième victoire de Duncan Quickstep depuis le début de la saison. On sent qu'ils sont une équipe au-dessus du lot et Bennett, ça reste un des meilleurs sprinteurs.
La FDJ avait choisi pour cette course
Arnaud Démare,
qui n'est pas dans la forme de sa vie, hein, il l'a dit.
Il n'est pas dans une grande forme, mais on sent qu'il est quand même présent, il fait quand même une deuxième place et tout. Donc mais on sentait que Bennett était supérieur. C'est une victoire assez logique au sprint. D'ailleurs, la deuxième étape vient de se finir et c'est la victoire de Chase Boll, le coureur de la Sunweb.
Ouais, en termes de leader, c'est Roglic, Godu et Théo Gauguinart qui sont tête d'affiche de ce Paris-Nice.
Demain, le contre-la-montre, donc ça va donner déjà une petite indication sur les...
Pour Juan Dennis, certainement. Le contre-la-montre, il faudra attendre le triptyque de vendredi, samedi, dimanche en montagne pour voir pourquoi pas un David Godu.
On espère pour le Français d'aller chercher une belle place et pourquoi pas la victoire. On sait qu'il a les capacités, il est bon en montagne, il a gagné l'Ardèche classique, donc il est dans une bonne forme.
faudra surveiller Porte et Martin sur cette
Porte
course.
Abandonnée.
À Porte à abandonner.
Porte à abandonner, oui, dans la première étape.
Bon, ben, on regardera ce que peut faire Guillaume Martin. Il reste 30 secondes, un mot de golf. Arnold Palver, Invitation, Bryson DeChambeau devant le vétéran Lee Westwood, 47 ans, hein, qui vient mourir à un coup de l'Américain.
Bah, une belle victoire pour Bryson DeChambeau, qui on sait que maintenant c'est un des gros golfeurs du plateau. Il avait déjà gagné l'US Open en 2020.
Ouais. Voilà. Et ce week-end, le player, ce que les golfeurs appellent le cinquième grand chelem. Voilà, on en termine pour cette 15e de Money Time. Merci les garçons pour votre participation.
Ben merci à vous.
À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.
Ciao, ciao tout le monde.